Revenons à nos textes de la Bible que nous venons d'entendre. Manquer d'eau, ne plus disposer d'une seule goutte d'eau potable. Est-ce que cela signifie encore quelque chose pour nous qui vivons dans un pays où l'eau semble toujours à disposition? Savons-nous vraiment encore en estimer le prix? Je me suis demandé ce matin, peut-être l'épidémie qui actuellement touche un peu tout le monde nous y sensibilise d'une nouvelle et bien surprenante manière. Mais aussi, sans cette expérience, rappelons-nous, chercher en vain quelques gorgées d'eau, qu'était en vain, ne serait-ce qu'un mince filet d'eau coulant sur un rocher. Ce n'est pas seulement être exposé à une soif dure et éprouvante, brûlante, c'est s'approcher à grands pas de la mort. Et c'est bien la situation à laquelle est confronté le petit peuple d'Israël, peuple conduit par Moïse à travers le désert du Sinaï. Voilà sa situation douloureuse. Le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif, lisons-nous dans le livre de l'Exode. Comment ne pas comprendre que le désespoir monte dans les cœurs? Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? En pareille situation, trouver contre toute attente une petite source de l'eau vive, ou au moins un rocher sur lequel ruisselle de l'eau, peut-être même avec générosité. N'est-ce pas retrouver la vie, un nouvel élan de vie? N'est-ce pas prendre conscience d'être libéré tout à coup de la mort menaçante et comprendre que le salut s'est approché de manière inespérée, approché gratuitement? Dès lors, rencontrer quelqu'un qui dise « Regarde, là il y a de l'eau », n'est-ce pas rencontrer comme un sauveur? N'est-ce pas faire l'expérience d'avoir du prix aux yeux de quelqu'un et d'être rendu à la vie par quelqu'un qui est attentif et qui veille? Mais pour entrer dans cette expérience, ne fallait-il pas être conduit, pour ainsi dire, vers ce point où l'on perd ses moyens, vers ce point zéro, où l'on est amené à se reconnaître comme démuni de tout, ce point zéro où nous n'osons plus jouer au maître, au grand, au puissant, au sage, au spirituel même? Mais le peuple du désert du Sinaï était-il seul à vivre cette expérience? De fait, cet autre peuple qui s'appelle Église et dont nous sommes les membres, ce peuple greffé de façon mystérieuse sur le peuple guidé autrefois par Moïse, cette assemblée dont nous faisons partie et qui comprend bien plus que ceux qui sont présents ici physiquement, ce peuple qui se nomme peuple de Dieu, n'est-il pas en train d'être conduit à son tour dans le désert? Conduit non pas grâce à ses propres projets, parfois il faut l'avouer un peu grandiloquent, mais par l'Esprit du Seigneur qui conduit et guide à travers les événements concrets qu'il s'agit de vivre et de traverser. Du reste, pourrait-il en être autrement si l'on se souvient que le monde, ce très pauvre monde qui croit pouvoir créer son propre bonheur, est de plus en plus plongé dans le désert? Et quel désert? Ce désert ne consiste-t-il pas d'abord dans l'absence douloureuse d'une eau de bonne qualité, à savoir l'absence ou un grand manque de cette eau qui peut animer, faire vivre l'esprit, faire vivre le cœur? Dès lors, l'Église, disséminée parmi les nations, ce pauvre peuple, si facilement fasciné par les spectacles que le désert du monde lui offre avec empressement, dès lors, cette sainte Église, la pauvre Église que nous sommes tous ensemble, cette bien-aimée de Dieu, n'a-t-elle pas besoin de rencontrer de nouveau et en plus grande profondeur celui qui peut lui ouvrir de nouveau les sens, le cœur, l'intelligence? N'a-t-elle pas besoin de rencontrer celui qui seul peut la sauver, son sauveur, à savoir cet unique époux qui ne la trompe pas, mais lui rend la vie, la joie d'être là, simplement là, pour lui, avec lui? Et si c'était le Christ, si c'était le Messie, si c'était Jésus, le Fils du Père, qui accepte toutes les fatigues pour rencontrer les siens, rencontrer la fatigue, l'épuisement des siens? Depuis quelques jours, je suis très impressionné par la petite remarque de Saint Jean l'Évangéliste, qui est si fin dans les détails. Jésus, fatigué par la route, s'était assis. Saint Augustin d'ailleurs a rendu attentif que là, Jésus s'est montré tout humble. Et si à certains moments, il nous semble devoir participer un peu trop à la fatigue de celle qui est lasse de faire le chemin vers le puits. Et si dans notre cœur monte peut-être le gémissement angoissé, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Alors n'est-il pas grand temps de crier à l'oreille du Seigneur et de frapper le rocher? Ne l'avait-il pas promis le Seigneur? Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. La femme de Samarie, de son côté, présentée par l'Évangile, et qui n'abandonne pas avant d'avoir reçu la lumière, est une grande gorgée d'eau vive. Ne voudrait-elle pas nous venir en aide pour que nous nous entêtions à notre tour? Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Peut-être la première réaction du Sauveur consistera à nous faire voir plus clair dans notre propre vie, non pour nous humilier ou nous faire peur, mais afin que nous la lui confions telle qu'elle est, un peu comme un enfant et sans peur. N'est-ce pas alors que nous ferons, nous aussi, l'expérience que même dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées, quelqu'un reste attentif à nous, veille sur nous et désire nous donner cette nouvelle eau, cette paix, cette assurance qui animait saint Paul qui pouvait dire dans la deuxième lecture, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.